Petite fleur, il faut savoir retenir ses pleurs. Bonheur trop souvent ressemble au malheur, comme deux balles en plein cœur.
C'est tout pour ce soir. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Marceau et Maître Bellemare s'en viennent. Prends soin de vous autres dans les prochaines secondes. Bye-bye!
Bye!
Boulevard 102.1 Gratis.
Spotify 10,99 par mois. Patreon 5$. Abonnement au câble 55$. Journal 24$. Boulevard 102.1
Gratis.
La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0$. Gratis. Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.
Gratis.
La vraie solution à l'inflation. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Bon lundi, et comme à chaque lundi, j'accueille mon collègue Maître Marc Bellemare qui est là. Maître Bellemare, bonsoir.
Bonsoir, comment vas-tu?
Ça va très bien. Il était temps que je m'en vienne en vacances. J'ai passé la fin de semaine avec mes gars dans les arénas de hockey. On avait de la boxe aussi en fin de semaine. On avait du UFC. On avait quoi? On avait le combat d'exhibition de Mike Tyson. Bon Dieu, que c'était une belle fin de semaine excitante, mais là, on revient en vacances, on recommence à travailler. Quelle bonne nouvelle.
Mais tu pensais quand même pas que Tyson allait gagner ça. Il est rendu à 82 ans, là.
Quand j'ai vu les règles, là, je sais que si Tyson gagnait au premier round, il n'aurait pas accès à l'argent qui lui avait été promis, c'est-à-dire le 20 millions de dollars. Mais si vous m'aviez dit, Yann, est-ce que Tyson, s'il va à fond de train au premier round, il est capable de mettre KO Jake Paul? Je vous aurais dit oui, absolument. Mais comme il y avait 20 millions de dollars en jeu, c'était clair et net qu'il n'allait pas le ramasser au premier round. Mais au deuxième round, là, on voyait qu'en fin de round, Mike Tyson avait des spaghettis dans les jambes. Là. Ses jambes étaient un peu chambranlantes. J'ai commencé à craindre là, pour Iron Mike. Mais non, c'est un combat d'exhibition. C'est un combat pour faire plaisir aux fans de Mike Tyson puis aux fans de Jake Paul. Là.
Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut savoir quand se retirer. Je sais pas. C'est comme B.B. King qui continuait de faire du blues. Il avait 80 quelques années puis il se souvenait pas des paroles. Comprends-tu? Il montait sur scène puis il se souvenait pas des paroles. Les gens ont gardé le souvenir d'un gars qui était moins fonctionnel. Tyson, là, ces images-là vont faire le tour du monde, tu sais. Fait qu'on va garder l'image d'un boxeur, comme tu dis, des spaghettis d'un jambe, puis tout ça. Je trouve ça triste, à un moment donné. Je comprends qu'il y a du bacon en jeu, puis que c'est des millions, mais en même temps, pourquoi ils disent pas non? Tu sais, c'est comme les vieux acteurs, comme De Niro, excellent acteur, mais ça va prendre des films niaiseux, tu sais.
Ouais.
Mais il perd son nom à travers ça, à un moment donné.
C'est sûr que quand on est indépendant de fortune, on peut prendre des décisions qui sont comme ça. Comme De Niro pourrait facilement refuser ces gros rôles-là. Mais Mike Tyson, il a un bon rythme de vie, 58 ans, donc il reste encore plusieurs années à vivre. Moi, je vous le dis, Maître Bellemare, si vous voulez me casser la gueule pour $1 million, là, j'accepte. J'accepte le combat. Vous pouvez me casser la gueule pendant 3 rounds et me donner $1 million, c'est sûr.
C'est sûr, mais tu sais, ça risque de nuire. C'est une question de crédibilité. Ça dépend quelle image tu veux garder de ces gens-là, puis quelle image ils veulent laisser. Moi, j'appelle ça le syndrome Willie Mays. Pas si tu viens de Willie Mays, toi, t'es jeune, peut-être pas. Willie Mays était un joueur de football exceptionnel, fracassé quantité de records dans le baseball majeur. Mais plutôt que de se retirer quand il était plus capable, là, il a continué de jouer, puis il a eu des contrats. Et je te dis, là, les derniers matchs, là, il était hué par les fans. Il était hué.
Ah, ouais.
Les gens huaient Willie Mays. Moi, ça me brisait le cœur. Je me disais, Christy, il n'a pas voulu arrêter à temps. Il a continué, Puis il a fait des mauvais jeux, puis il n'est pas bon, puis il n'attrape pas la balle, puis il ne lance pas assez loin, puis tu sais, il a vieilli. Moi, j'appelle ça le syndrome Willie Mays. Tu sais, les gens qui sont jamais capables de continuer, puis de faire les choses comme il faut, les gens dont on a gardé l'image, le meilleur de sa gang, puis à un moment donné, ben, il continue, puis il continue, puis il continue, puis il ne sortir pas. Je ne sais pas, c'est sûr que les gens vivent de plus en plus vieux aujourd'hui. Puis Mike Tyson, c'est un gars de spectacle, puis c'est certain que c'est un show, puis il va avoir des cotes, des clics, puis tout ce que tu voudras. C'est vrai, mais il y a un prix à ça, à mon avis. Et c'était prévisible, évidemment, qu'il allait se faire ramasser. Mais
Mais
je sais pas.
Jake Paul, là, il l'a pas couché. Là. Par respect, là, Jake Paul s'est retenu. Après 2 rounds, Mike Tyson n'était plus capable de combattre. On a eu quelques petits moments où Mike Tyson a été capable de placer un coup par-ci, par-là, mais Jake Paul n'a jamais été terrassé là, par les coups de Mike Tyson. Puis vers la fin, Jake Paul a levé la pédale. Puis il voulait tout simplement que son ami Mike Tyson, parce que dans la vraie vie, c'est vraiment des chums de gars, là, il voulait vraiment que Mike puisse toucher son fameux 20 millions de dollars. Puis du côté de Jake Paul, c'est un 40 millions de dollars. Mais moi, je pense que Mike Tyson est indépendant de fortune, oui, parce qu'il a
Oui,
fait beaucoup
bien sûr.
d'argent par le passé, mais un 20 millions, ça va peut-être faire une différence dans sa vie. Puis c'est peut-être une occasion pour lui de se faire aduler une dernière fois, t'sais, un dernier tour de piste. Mais tu sais, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais pour moi, tu sais, je me souviens de Wayne Gretzky, je me souviens de Mario Lemieux, je me souviens d'Alexander Ovechkin quand il avait 20 ans dans la Ligue nationale. Mais aujourd'hui, mis à part Alexander Ovechkin, mettons qu'on prend Wayne Gretzky, puis on le fait jouer contre Connor McDavid, puis je suis loin de comparer Connor McDavid à Jake Paul, soit dit en passant, là, au niveau de la boxe, là. Mais Gretzky n'arrivera jamais au niveau de Connor McDavid parce que Gretzky est resté très longtemps à l'écart du hockey, puis il est vieillissant aussi. Donc, tu sais, je voudrais pas voir peut-être voir un match d'exhibition les deux ensemble, là, jouer sur la même ligne. Mais tu sais, c'est clair que Gretzky arriverait pas contre Connor McDavid.
Jake Paul, est-ce qu'il s'est mis des protecteurs sur les oreilles avant le combat?
Je sais pas, mais Mike Tyson avait une petite tendance à mordre
Oui, c'est un mangeur d'oreilles, hein?
son gant. Puis à la fin de l'entrevue, je sais pas si vous l'avez écouté en français ou en
C'est
anglais,
pas
mais
des oreilles de Christ qui mangent, hein? C'est des vraies oreilles.
Mike Tyson a dit qu'il avait une addiction au mordage, fait que c'est pour ça qu'il mordait son gant. Mais ça a été quand même, à mes yeux, à moi, du moins, une belle soirée de boxe. On a eu un combat de femmes aussi juste avant le combat de. Juste avant le main event, qui est, à mes yeux, à moi, le meilleur combat de l'année, là, au niveau de la boxe. Je regarde ça régulièrement, puis j'ai adoré ce combat-là. C'était véritablement deux guerrières qui étaient là pour gagner. Et non, c'était exceptionnel ce combat-là, là. Même que je pense que je vais le réécouter.
Bien sûr. Ben oui, tu peux réécouter ça 100 fois, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on peut réécouter à peu près tout, même nos chroniques. Il y en
Ben
a,
oui.
tu peux les réécouter.
Ben oui,
Ce
puis...
soir, jusqu'à minuit, tu peux écouter nos chroniques, les
Ouais.
répétitions, puis.
Exact, exact. Puis en plus, le Canadien a gagné 5-1 face à Columbus en fin de semaine. Fait que
Ah ouais, il y a eu comme une espèce de déferlante à la fin, là, dans les 10 dernières minutes. Là, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. C'était plaisant. Puis là, je regardais les Dave Morissette puis les animateurs. Là, ils ont eu une victoire. Ils étaient contents. C'est comme si on avait gagné la Coupe Stanley. Tu trouvais ça? Je ne sais pas si tu as
Oui,
écouté les
ben,
commentaires d'après-match, mais.
on est excité quand on gagne avec le Canadien parce que ça arrive très peu. Mais Maître Bellemare, vous faites partie. Bon, vous avez plus d'expérience que moi, là, mais je me souviens encore du hockey des années 80. Je n'ai pas connu les années 70, malheureusement. Mais c'était régulier quand un joueur ne donnait pas la performance qu'il était supposé de donner, qu'on le laisse sur le banc.
Ouais.
Parfois, si c'était pas le joueur, c'était la ligne au complet. Donc, si c'était le premier trio ou le deuxième trio qui faisait pas la job ce soir-là, bon, on les laissait sur le banc. Puis les journalistes en jasaient pas après le match. C'était normal quand tu donnais pas l'effort que ton entraîneur te demandait de donner. Ben, c'était normal de faire du banc. Là, on a mis Slavkovski quelques minutes sur le banc, puis les journalistes n'en revenaient pas. Là. Ben, voyons donc, il va perdre sa chambre. C'est tout à fait normal quand un jeune de 20 ans donne pas la performance désirée. Qu'on lui fasse sentir que ça se peut que tu sois pas là pour le prochain match, là.
Ben oui, c'est certain. Puis en même temps, nous autres, on ne voit pas tout le temps. On n'a pas l'œil de l'entraîneur, puis on ne voit pas tout le temps le joueur qui ne donne pas son maximum. On ne les connaît pas autant que les entraîneurs les connaissent. Mais je pense les mieux placés. Puis, tu sais, il y a aussi une question de consigne. Si l'entraîneur a dit, ben là, Tu vas te mettre devant le but plus souvent, tu vas bloquer des tirs, tu vas aller dans le coin, tu vas surveiller tel joueur de façon plus intense, puis que le coach n'a pas ce qu'il veut, mais c'est normal qu'il sévisse. Mais nous autres, on regarde ça, puis on peut être porté à penser que le joueur, il n'est pas pire à soir. Tu sais, il patine, puis il est dedans, puis en vrai, il se replie. Mais s'il n'a pas suivi les consignes qui ont été données par le coach, il pourrait avoir à faire du bench, comme on dit. Alors, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis je trouve qu'un des problèmes à Montréal, c'est justement qu'ils ne sont pas assez sévères, tu sais. Écoute, on a un club qui gagne presque jamais. Puis moi, je te dis qu'il y en aurait un sur le banc, peut-être même deux par match. Il faut être plus sévère, il faut être plus caustique un peu. On parle à des grands bébés, hein, des gars de 20, 25 ans qui gagnent 3, 4, 5 millions, là. À un moment donné, ils sont peut-être portés à être maître après Dieu. Alors, il faut les ramener sur le plancher des vaches.
Mais est-ce qu'on fait partie de la vieille école des dinosaures toxiques? Parce que je regarde ça, là, c'est comme si c'était toxique de passer un message à un jeune, tu sais, puis c'est peut-être nous qui n'avons pas progressé, mais à mes yeux, à moi, si quelqu'un ne te donne pas l'effort escompté, il faut que tu y démontres d'une certaine façon. Puis je comprends que, bon, t'sais, la vieille époque là, des vieux coachs qui engueulaient, qui cassaient les bâtons sur la table pour faire passer le message, je comprends que ça, c'est parti. Mais c'est pas cruel de penser que c'est tout à fait possible pour un coach de hockey de la Ligue nationale de laisser un jeune de 20 ans sur le banc. Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme un peu archaïque, mais en même temps, c'est-tu la société qui est rendue trop mollassonne?
Oui, tu es certain que c'est trop mollasson. Puis moi, je trouve qu'il y a un manque de sévérité, puis un manque de by the book dans notre société en général. À l'école, on donne des diplômes à tout le monde, on diminue les notes de passage, on ne sévit pas, les tribunaux. Non, non, non. Écoute, on est dans un air de médiocrité où on n'est pas assez sévère, c'est bien évident. Puis on a tout le temps peur de casser la personne, si on est trop sévère, les élèves, oh, mais il faut faire attention, puis il ne faut pas les mettre en dépression, puis il y a des troubles anxieux, puis non, non, non. Bien, on est rendu là justement parce qu'on était trop tolérant, à mon avis. Alors ça, c'est une opinion, mais oui, dinosaure, bien sûr. Moi, je mets le chapeau du dinosaure. Je suis bien content parce que je trouve que de façon générale, il y a trop de laisser-aller dans notre société. Puis dans le sport professionnel, il ne faut pas être violent, là. C'est pas, tu sais, faut pas donner de coups, faut pas. Mais dans une ligue où on tolère les combats, on n'a pas grand raison pour pas sévir contre un joueur qui donne pas 100% de son potentiel.
Maître Bellemare, vous avez été en politique et vous avez été à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des racistes à l'Assemblée nationale?
Tellement ridicule cette affaire-là, tu sais. Moi, Boisy, là, écoute.
Haroun Boisy, le député de Québec
Moi, j'ai
solidaire.
vérifié son profil. Ce gars-là, il n'est pas né au Québec. Hein?
Non.
Il a fait de longues études. Ben, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de tout accepter puis tout tolérer. Mais il a été bien considéré au Québec. Il a été bien reçu. Il a été formé dans les meilleures écoles. C'est un ingénieur. Je pense qu'il a étudié à Polytechnique. Quand tu regardes son pedigree, tu dis comment ça se fait que ce gars-là est à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a définitivement des principes. Mais je trouve qu'il va. C'est ça. Il voit du racisme partout. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec lui, surtout dans son groupe ethnique. Parce que cette conférence-là a été prononcée, là où il a dit qu'il voyait du racisme tous les jours, c'était prononcé dans le contexte d'un organisme qui cherche à établir des ponts et à favoriser l'intégration. Mais en fin de compte, il charrie les préjugés à plein. Puis.
C'est
Quand
là.
je vois son parti politique qui n'est pas capable de sévir par rapport à ça, je me dis, ben, ils perdent encore des points. T'sais. Québec solidaire, ça les intéresse-tu, l'élection? Il y a une excellente chronique de Richard Martineau aujourd'hui qui dit ben, que le vrai Québec solidaire se lève parce que d'un côté, tu as Nadeau Dubois, le porte-parole masculin, qui, au dernier conseil national de son parti, je ne sais pas si tu te souviens, quelques jours après que Mme Lessard ait démissionné de son poste de coporte-parole féminine, il était dans le trouble, puis il avait dit, on va faire un virage pragmatique. On va s'intéresser aux vrais problèmes des gens, l'inflation, le coût de la vie, la sécurité, le soutien aux familles. On va s'intéresser à ça parce que c'est ça qui intéresse les Québécois. Puis là, le Conseil national qui suit, c'est-à-dire celui de la fin de semaine dernière, mais là, il ne parle pas de ça pantoute. On parle de racisme, puis est-ce qu'on va réprimander M. Boisy, puis etc. Alors, tu sais, une chatte ne retrouverait pas ses petits. Puis ça, ben, ça montre qu'il y a finalement il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de leadership dans ce parti-là. Puis, à peu près n'importe qui est nécessairement toléré. Puis, des écarts comme ça, je pense que ça aurait dû être sanctionné. On aurait dû y permettre d'aller faire un petit tour en dehors du caucus pendant quelques mois, peut-être, le temps de réfléchir.
Mais est-ce que ça aurait été
Ça n'a
bien
pas de bon
perçu?
sens, là, de dire des affaires de même, tu
Ouais.
sais.
Parce que je regarde, bon, ces propos-là ont été dits à la Fondation Club Avenir, qui est un OSBL qui œuvre pour l'intégration des communautés maghrébines à la société d'accueil. Il a dit, Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone et que sa culture, qui par définition serait dangereuse ou inférieure. C'est ce qu'il a déclaré. Puis, mais de le mettre dehors, je sais pas si ça vaudrait la peine, honnêtement, mais de voir à quel point Québec solidaire est un peu sur la sellette dans ce dossier-là, de voir à quel point les gens disent, ouais, mais là, s'il dit, c'est peut-être parce qu'il constate ça. T'sais, on est une belle société au Canada. On est une terre d'accueil pour ces gens-là. Puis de voir que ces gens-là voient de l'intolérance partout, alors que des fois, quand on regarde un peu plus attentivement, c'est eux qui deviennent intolérants à notre égard. Moi, ça me pue au nez. T'sais. On fait vraiment attention pour les intégrer. Même lorsqu'on avait parlé des fameux professeurs, Maître Bellemare, les 11 professeurs qui étaient dans une école à Bedford qui considéraient les petites filles comme inférieures aux petits gars, puis disaient aux petites filles, ben ça, ce sport-là, tu peux pas le faire parce que tu es une fille. Puis, t'sais, ils ont pas dit que c'était des islamistes radicaux, alors qu'ils auraient dû le dire. Ils ont
Oui.
dit, c'est des gens qui sont maghrébins. T'sais, on a fait vraiment attention à nos mots. Et là, tu as l'autre qui a son billet de confirmation. On sait c'est quoi un billet de confirmation. C'est, exemple, on est gros. Si quelqu'un nous regarde, on va dire, il me regarde de même parce que je suis gros. Si quelqu'un est roux, ben, il se fait regarder de travers, il va dire, ah, encore lui, il me regarde parce que je suis roux. Si quelqu'un est noir, il va faire, ah, ben toi, le policier, tu m'interceptes parce que je suis noir. Non, non, c'est juste parce que ta plaque est illisible en arrière. C'est pour ça que je t'intercepte. Non, mais c'est parce que je suis noir. C'est le fameux billet de confirmation qui fait en sorte que les gens voient du racisme là où il n'y en a pas. À mes yeux, à moi, tu es musulman extrémiste, tu considères pas la femme comme ton égale, ben tu vas te le faire dire, puis c'est juste une bonne chose que tu te le fasses dire, tu sais.
Oui, c'est ça.
C'est pas
Puis
du
en fin de
racisme, là.
compte, hein, même M. Boisy, dans son fameux discours il y a quelques jours, devant une communauté qui semblait être acquise parce qu'elle a applaudi ses propos, comme communauté maghrébine, au fond, il cite de façon explicite les Autochtones, les Noirs et les Maghrébins. Alors, il développe une espèce de paranoïa autour de ça. Et ils visent qui? Ils visent les non-autochtones, les non-noirs et les non-maghrébins, c'est-à-dire toi et moi. Alors, ils visent une majorité. Ils visent les blancs. Ils visent la société d'accueil, qui sont pas mentionnés dans son groupe supposément molestés, maltraités et discriminés. Et ben là, moi j'entends ça, puis ça me rend furieux parce que je me dis finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici, puis il exploite un sentiment d'exploitation ou de discrimination qui peut exister chez certains immigrants. Et il faut faire attention parce que c'est extrêmement dangereux dans les faits, parce qu'il y a un potentiel de paranoïa. En d'autres termes, tu sais, les gens qui arrivent ici, puis une terre d'accueil, puis il y a un potentiel. Alors, c'est une flamme qu'il faut pas trop raviver parce que on joue sur les émotions. Et moi, je comprends la plupart des immigrants qui viennent ici ont déjà vécu une fois dans leur vie une situation où ils ont senti une forme d'hostilité ou une forme de discrimination ou des propos des fois qui n'étaient pas nécessairement favorables de la part de gens de la communauté d'accueil. Ils ont déjà probablement vécu des commentaires ou des propos qui étaient plutôt racistes, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de la société l'est. Et
Exact.
quand tu commences à attiser cette flamme-là, quand tu commences à dire que dans l'institution la plus prestigieuse du Québec, qui est l'Assemblée nationale, les 128 députés qui sont élus par les Québécois, et majoritairement, bien sûr, les Québécois francophones blancs, comme toi et moi, puis là, on nous dit que cette institution-là est la plus représentative, la plus symbolique, celle dont on peut être le plus fier, surtout pour les Québécois francophones, parce que notre seul gouvernement qu'on contrôle véritablement, c'est bien l'Assemblée nationale. On sait très bien qu'on ne contrôle pas le gouvernement d'Ottawa, on contrôle le gouvernement à Québec, en haut de la côte. Alors, c'est comme de taxer tout le monde de racisme. Et c'est triste, c'est malheureux parce que ce gars-là a un certain prestige. C'est un gars qui a réussi, c'est un gars instruit et c'est une espèce de phare, une espèce de lumière pour plusieurs personnes qui font partie des communautés dont il a parlé. Et cette paranoïa-là qui tend à développer et à promouvoir, bien, ça nuit beaucoup, beaucoup, non seulement aux immigrants puis aux Autochtones, mais ça nuit aussi auprès de la majorité. Parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, bien, ils me traitent de raciste à travers l'Assemblée nationale.
Ouais.
Donc, moi, je ne suis pas raciste. Puis, s'il y a un peuple sur la Terre qui est ouvert, qui est généreux, surtout dans les années qui courent, où on accueille beaucoup plus d'immigrants que ce qu'on est capable de faire, on laisse nos places dans les garderies, on laisse nos places dans les hôpitaux, dans les écoles, on est prêt à accepter tout le monde. S'il y a un peuple qui est généreux, c'est bien les Québécois.
Exact.
Et on n'a pas les moyens de notre générosité. Puis en plus de ça, il nous arrive avec ça. Puis ça s'ajoute à d'autres. Tu sais, quand Trudeau a nommé sa commissaire à l'islamophobie à Ottawa, là, qui nous dit qu'on devrait engager plus de profs islamiques, là, c'est la même affaire. Tu sais, c'est comme une espèce de. Tu sais, le backlash contre le Québec. On sait maintenant qu'il y a une étiquette. Puis cette étiquette-là, c'est Québec solidaire, qui accepte. Parce que tu le sors de ton caucus ou ben non, tu le gardes. Mais si tu le gardes, tu l'intègres, il y a une forme d'approbation. T'as beau dire, c'est pas fin ce que tu as dit. Si dans les faits, il n'y a pas de sanction, ben il y a une forme d'approbation. On se trouve à accepter que des gens à Québec solidaire pensent comme ce monsieur Boisy. Et ça, c'est déjà trop, à mon avis. Fait que c'est un très, très mauvais, une très, très mauvaise fin de semaine pour eux. Et je m'attends dans les prochains sondages à ce qu'il y ait encore une baisse. Si je m'appelais Gabriel Nadeau-Dubois, je me poserais des questions sur mon appartenance à ce parti-là, parce que moi, j'ai l'impression qu'il doit assez mal dormir de ce temps-là.
Mais de tolérer les intolérants, on a toujours fait ça, mais à un moment donné, ça peut nous revenir dans le visage comme ça arrive là présentement. Ces gens-là sont des intolérants, on les a toujours tolérés. On leur laisse dire ce qu'ils veulent jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils aillent trop loin, puis là, on se fâche. Mais à la base, faudrait toujours intervenir à chaque fois qu'on se rend compte que ces gens-là nous accusent d'eux, puis on considère que c'est pas vrai. Faudrait constamment intervenir. Parce que t'sais, les gens apprennent de ce qui se passe. Puis, comme vous l'avez dit, la base de Québec solidaire, bon, il y a beaucoup d'immigrants. Puis, il y a des immigrants qui, avec le fameux billet de confirmation que je vous jasais tantôt, ils en ont beaucoup contre les Québécois parce qu'ils ont l'impression, eux autres, que le racisme est partout, alors qu'il y a un très faible pourcentage, heureusement, de racistes purs et durs au Québec. C'est un 3, c'est un 4, c'est un 5 %. Je suis pas capable de vous le dire avec certitude. Il y a beaucoup de xénophobie aussi, la peur de l'étranger, puis ça, ben, ça disparaît à partir du moment où tu rencontres des modèles positifs d'immigration, où on les côtoie, où nos enfants peuvent s'amuser ensemble, où on peut manger avec eux autres, puis avoir du plaisir. La xénophobie, elle descend, puis le racisme descend aussi au fur et à mesure que les gens sont éduqués. Mais de voir qu'il y a tout le temps des gens qui vont chercher, tout le temps avec la petite aiguille, là, t'sais, ils vont te gratter constamment, faudrait juste cesser de tolérer ces individus-là. T'es heureux, parfait, t'es dans la famille, t'es pas heureux, ben sache que tu peux retourner d'où tu viens, là, sans aucun problème. Nous, on est là pour t'accueillir, on t'aime, on t'apprécie, tu veux contribuer à la société, mais si tu nous traites toujours de racistes, tu nous fais toujours passer pour les crises de pas bon, à un moment donné, il y a des limites, tu peux retourner là d'où tu viens, là.
Oui, puis c'est la beauté de l'affaire, Yannick, c'est que Boisy a prononcé ces propos-là devant un auditoire acquis, comme je l'ai dit tantôt.
Exact.
Jamais, jamais il aurait dit ça à l'Assemblée nationale, parce qu'il aurait été ramené à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Puis incidemment, je ne sais pas si ça va intervenir, parce qu'elle pourrait intervenir, parce que un député n'est pas responsable des propos qu'il tient uniquement à l'Assemblée nationale. C'est comme un avocat. Moi, je suis avocat 24 heures par jour. Si je fais une connerie en dehors de la cour, mais je fais une connerie puis je déshonore ma profession. Alors, je ne sais pas si Mme Roy est en train de regarder ça, mais j'en parlais avec certains députés en fin de semaine, puis je leur disais, bien, écoutez, il me semble que Mme Roy devrait intervenir, au moins avoir un propos, parce qu'elle représente l'institution, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Puis elle doit défendre son institution, puis j'imagine qu'elle va avoir au moins quelques mots à livrer lorsqu'elle va en avoir l'opportunité en chambre pour pouvoir rappeler que l'Assemblée nationale est un modèle de partage et d'inclusion. Maintenant, lui, Lavoisier, il a prononcé ces mots-là devant une clientèle. Je pense pas qu'il savait qu'il était filmé, parce que ça m'a l'air d'avoir été filmé un peu avec le téléphone, là. Ça m'a l'air un peu artisanal. Mais on voit que finalement, il y a un discours officiel quand il parle publiquement à l'ensemble des Québécois, parce que quand il fait un scrum à l'Assemblée nationale, il ne parle pas de même, là. Mais quand il s'en va avec sa gang, il crache sur le Québec. Fait que tu vois qu'il y a aussi une forme d'hypocrisie dans le propos. Et la beauté de l'affaire, c'est qu'il s'est fait pogner, entre toi et moi, parce que je suis convaincu qu'après ça, ben, c'est difficile de ramer parce qu'on a les images, on a le ton, on a l'aisance avec laquelle il traite l'Assemblée nationale de raciste tous les jours. Tu sais, il y a des gens qui n'écoutent pas l'Assemblée nationale. Il y a des immigrants qui sont arrivés ici il y a 6 mois, qui parlent français puis qui ont entendu ces propos-là. Ils ne savent même pas c'est quoi l'Assemblée nationale. Nous autres, on le sait parce qu'on est dans l'actualité, puis on a vécu. Puis on sait que c'est à Québec, puis tout ça. Mais tu sais, un immigrant qui vit à Montréal-Nord, qui vient d'arriver il y a 6 mois, là, il entend ça, lui, il croit ça, il prend ça pour du cash, là. Il sait pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il écoute pas nécessairement une nouvelle en français. Puis il sait pas nécessairement ce qui se passe dans cette enceinte-là. Il a pas le recul par rapport à l'histoire de l'Assemblée nationale, les grands démocrates qui ont circulé depuis Jean Lesage dans l'ère moderne, avec Lucien Bouchard, avec René Lévesque, avec Robert Bourassa. Il n'y a pas cette perspective-là pour évaluer le niveau de tolérance et d'inclusion qu'on a à l'Assemblée nationale. Mais et dans ce sens-là, ben c'est hautement préjudiciable. Puis encore là, il va falloir qu'on pose quantité de gestes pour réparer ça, si jamais on peut le réparer intégralement. Mais c'est très dommage. J'espère que les électeurs vont s'en souvenir quand ça va être le temps de voter. Puis ceux qui auraient une propension à voter pour Québec solidaire, ben souvenez-vous de ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est assez central.
Deuxième sujet, Maître Bellemare, je vous parle du cas d'Israël Prou. Israël Prou, on se rappelle, en juin 2019, lui, il était sur son lieu de travail, dans son camion, sur le chemin Parent qui reliait Latuc à Mont-Laurier. Puis, il aurait fait un accident. Et à ce moment-là, ben lui, sa conjointe dormait dans la boîte du camion derrière. Et parce qu'il aurait mal attaché le contenu de son camion, ben sa conjointe a été tuée dans l'accident. Il y a eu une enquête et l'enquête a révélé qu'il n'avait pas très bien fait son travail. Et là, ben on l'a accusé de
négligence criminelle causant
négligence
la
criminelle.
mort.
Voilà,
En
négligence
fin de compte, il y
criminelle
a eu.
causant la mort. Ouais.
Ce verdict-là est tombé. C'est arrivé en juin 2019. Le gars, il a attaché 2 attaches sur 7. Son voyage est attaché, au fond, à 2/7 de ce qui aurait dû être fait.
C'était des billots de bois.
Ouais, et Dieu sait comment c'est volatile, puis Dieu sait comment ça peut se détacher. Puis, t'es comme moi sur l'autoroute, hein, quand tu suis un truck avec un billot de bois, je peux te dire que t'as hâte de dépasser puis de changer de voie parce que.
On y pense à chaque fois.
Ben, c'est pas nécessairement ça, mais des roulottes, des chariots, des wagons à moitié attachés. On ne sait jamais qui on suit, mais on est toujours un peu nerveux. Alors, ça, c'est arrivé quand même à Mont-Laurier. En tout cas, c'est au palais de justice de Mont-Laurier que ça a été plaidé. Donc, ça s'est arrivé dans le nord de Montréal. Et il a été condamné à 2 ans de pénitencier. Au moins, il y a du pénitencier. Au moins, il s'en est pas sorti avec une peine bonbon à la maison, avec 18 mois de probation. Mais moi, quand je vois que ça a causé la mort, puis que, tu sais, un événement sur la route qui cause la mort de quelqu'un, moi, je pense qu'on ne devrait jamais avoir une condamnation en bas de 5 ans. C'est une vie humaine qui est partie. Il est coupable. Il y a un lien hors de tout doute entre la négligence criminelle et le décès. Cette femme-là, on a la photo là, sur le web, là, une jeune femme, à peine une quarantaine d'années, je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est certain qu'elle n'est pas vieille, que je pense que Prou, il a 43 ans, quelque chose du genre. Donc, c'est des gens assez jeunes, une perte de vie humaine. Moi, je pense qu'on devrait avoir une peine minimale.
Ouais.
Tu causes la mort de quelqu'un, que ce soit par négligence criminelle au volant, que ce soit par un incendie criminel, que ce soit par des voies de fait graves, intention ou pas, tu as causé la mort de quelqu'un, on devrait, dans notre code criminel, avoir une peine minimale de 5 ans. C'est une vie humaine. Et puis, moi, ça me fait rire parce que tu as des chartes au Québec, au Canada, là. On a des chartes pour se noyer de chartes, là, tu sais, de déclarations, le droit à la dignité, le droit à la vie, le droit à l'honneur. Mais c'est drôle, quand vient le temps de mettre un montant d'argent là-dessus, nos tribunaux sont ultra timides, les montants sont très faibles dans des cas de dommages corporels, dans des cas de décès. C'est presque rien par rapport aux Américains, c'est encore risible. Et au niveau criminel, mais au moins il y a 2 ans de pénitencier, mais tu sais.
Mais au moins, tu sais, la dame avait
Colin,
39 ans à
tu
l'époque, lui avait 45,
sais.
donc 39 et 45. La dame est décédée sur le coup, puis tu sais, c'est une dame qui est décédée, mais c'est sa fille aussi qui va grandir sans que sa mère soit présente. Sa fille qui était très jeune à l'époque, c'est les parents de cette femme-là. Tu sais, tout le monde souffre autour. Oui, la dame est
Ouais.
décédée, puis ça vaut des années de prison, mais tout le monde qui souffre autour, qui ont l'impression qu'avec cette sentence-là, justice n'a pas été rendue. Fait que je vous rejoins aussi au niveau du nombre d'années. Il devrait avoir un nombre d'années minimum là, pour négligence criminelle causant la mort. Et 5 ans, c'est pas peu, là. Ce serait juste assez, là.
Parce qu'en 1999, il y a eu des modifications au code criminel qui ont prévu l'augmentation des peines maximales. Alors, le gouvernement avait modifié le code criminel en disant, ben, la négligence criminelle causant la mort, c'est un maximum de perpétuité. Conduite dangereuse causant la mort, c'est maximum de perpétuité. Et selon la jurisprudence, selon l'approche des tribunaux de justice criminelle, quand le gouvernement augmente le maximum, c'est comme un signal, soyez donc plus sévère, mais dans les faits, ce n'est pas suivi. Et on n'a pas de peine minimale, et c'est ça le problème. La peine minimale, ça fait en sorte que le code criminel dirait, par exemple, conduite dangereuse causant la mort, faculté affaiblie causant la mort, négligence criminelle causant la mort, si ça cause la mort, puis que c'est hors de tout doute que ton comportement déréglé à l'égard de la vie d'autrui a causé un décès, mais à ce moment-là, on pourrait dire, on tire une ligne, puis ça ne sera pas en bas de 5 ans. Alors, le juge pourrait donner 8, 10, 12, 5,5, mais il ne peut pas aller en bas de 5 ans. Je suis d'accord avec ce concept-là de peine minimale. Le gouvernement de Stephen Harper en avait introduit plusieurs dans le code criminel. Les tribunaux ont déclaré plusieurs de ces peines minimales-là illégales parce que c'était contraire à la charte de Trudeau-Père qui, depuis 82, permet aux tribunaux de casser des articles du code criminel quand ils jugent que c'est cruel et inusité. Alors, il faudrait tasser la charte par la clause dérogatoire pour faire en sorte que ces peines minimales-là soient maintenues. Mais je le répète, 2 ans de pénitencier pour avoir causé la mort délibérément de sa femme en n'attachant pas un voyage comme du monde. Il y a eu une bonne sortie de route. Ça a dû fesser pas à peu près parce que causer la mort de quelqu'un, écoute, c'est pas en attachant tes bottines que tu vas causer la mort de quelqu'un. Il
Exact.
y a eu tout un impact,
Exact.
certainement.
Puis c'est de ta faute, c'est elle est décédée, c'est pas
Ben,
pour
c'est
rien
ça.
d'autre. OK, hey,
Et, mais ça rejoint à un autre dossier dont je voulais parler, c'est arrivé au Saguenay, c'est la semaine dernière, je crois que c'est vendredi, où Nelson Bernier, un jeune homme de 35 ans, a été condamné à 18 mois dans la collectivité, ça veut dire à la maison, pour faculté affaiblie causant des lésions corporelles. Puis ça, ben, on en a déjà parlé, ça c'est le bout du bout, là, parce que là, t'as une peine de moins de 2 ans, qui permet au juge de donner une faculté affaiblie, pour une faculté affaiblie causant des lésions corporelles. Je ne sais pas c'est quoi les lésions corporelles qui ont été causées, mais il y a des blessures. 18 mois dans la collectivité. Alors, on verra bien ce que ce jeune-là va faire pendant ces 18 mois-là, mais il reste que c'est quand même. On voyait sur l'image, c'est le quotidien de Chicoutimi qui rapportait ça. On voit la procureure de la Couronne qui a l'air satisfaite de ça. Moi, je ne suis pas trop satisfait. J'aurais voulu qu'elle soit plus sévère que ça. Et le juge a condamné Bernier à payer 6 000 $ à la victime. Puis la procureure de la Couronne dit, ah, ben, il faut s'occuper des victimes. Ben, moi, j'ai un petit message pour elle. Moi, je m'en occupe des victimes au bureau, là. Tous les jours, j'en rencontre, puis je peux te dire que quand ils voient des peines de la communauté, ils font de l'urticaire. Puis 6 000 $ pour des lésions corporelles, c'est quand même pas de l'argent, tout et moi, là. 6 000 $, là, j'espère qu'il va le payer, puis vite, parce que il va avoir 18 mois, puis s'il est un petit peu habile, il va être capable de gagner son 6 000 $ pendant ces 18 mois, parce qu'il peut travailler pendant ces 18 mois-là à la maison, il peut faire du web, il peut faire du travail à la maison. Alors, c'est vraiment une peine Très clément.
Puis dans ce cas-ci, on parle d'une jeune victime. Lui avait pris un mélange d'alcool puis de médicaments sous ordonnance, puis avait pris le véhicule quand même, fait une collision frontale avec la jeune victime de 19 ans. Et elle, aujourd'hui, est incapable là, de lever des charges importantes et ça a mis carrément fin à son rêve de devenir ambulancière. Donc, il a gâché sa vie, il a gâché sa future carrière. 6 000 $, c'est très, très peu, là.
Ouais, 6 000 piastres, c'est sûr que ça ne paye rien. Puis, c'est sûr que cette jeune victime-là va probablement être indemnisée par la SAC. Mais tu sais qu'en vertu de notre régime d'assurance automobile, elle ne peut pas poursuivre Nelson Bernier. Alors, la victime n'a aucun recours civil contre Bernier. Elle ne peut pas le poursuivre pour payer des choses, par exemple, que la SAC ne paye pas à cause de la protection de la loi sur l'assurance automobile, qui est quand même limitée. Puis là, il s'en tire avec 18 mois dans la collectivité. J'aimerais ça que la victime nous dise qu'est-ce qu'elle pense de ça, moi, des peines dans la collectivité, parce que j'en ai jamais rencontré depuis que Justin Trudeau a ouvert la valve des peines dans la collectivité en novembre 2022. J'ai jamais rencontré une victime de criminel qui était satisfaite de ce type de peine-là. Et moi, je comprends qu'on puisse peut-être parler de peines dans la collectivité pour des raisons strictement financières, pour un vol à l'étalage ou quelque chose de véritablement banal, une claque sur la gueule qui n'a pas de conséquences permanentes en sortant d'un bar, des choses comme ça. Mais quand tu es rendu dans les ligues majeures de facultés affaiblies causant des lésions corporelles, des homicides involontaires, des fraudes majeures, puis des peines dans la collectivité, honnêtement, je pense qu'on est en train de prendre un virage qui nuit beaucoup à la crédibilité du système auprès de la population en général. Et c'est ça qu'il faut corriger. Puis le DPCP, s'il commence à se contenter des peines dans la communauté et des 6 000 piastres aux victimes, bien là, ça montre que si le DPCP ne fait pas sa job puis qu'il n'est pas plus sévère puis exigeant quand vient le temps de prononcer des peines dans des cas graves comme ça, bien, ça veut dire qu'il n'y a personne, finalement, qui s'occupe de l'intérêt public puis de ce que la population recherche comme peine plus sévère dans le cas de crimes graves.
Ouais, mais là, c'est à vie. Là. Donc là, ils vont lui donner un 6 000 piastres cash, mais elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus devenir ambulancière parce que c'était son rêve. C'est quoi? C'est la SAC qui va compenser pour un certain montant pour qu'elle puisse continuer à se faire soigner? Y a-t-il un montant
d'argent? La SAC, c'est sûr que si la petite fille de 19 ans est à l'école au moment où l'événement survient, ils ne payent pas de remplacement de revenus aux 2 semaines comme si tu travailles. Si tu travailles, tu gagnes 40 000 par année, bien, ils vont te donner un remplacement de revenus qui correspond à 90 % du net. Mais si tu es aux études, tu vas pouvoir réclamer des sommes d'argent pour les frais, bien sûr, de traitement, psychologue, physiothérapeute, etc. Mais tu vas pouvoir aussi réclamer des montants d'argent pour les sessions d'école que tu as perdues. Mais si tu n'as pas, si tu as juste été ralenti dans tes sessions d'école ou que tu n'as pas vraiment perdu ta session d'école, tu as droit à pas une scène, non? Alors, la loi sur l'assurance automobile pour les étudiants, c'est assez minable. Il n'y a pas grand-chose. Ceux qui travaillent, qui ont un salaire, ça va mieux. Il y a un remplacement de revenus. Mais les autres, là, même si ça retarde ton accès au marché du travail pendant 2-3 ans, tu n'auras pas une indemnité qui va compenser pour ces pertes-là. Là.
On a le plaisir, comme à chaque lundi, d'être en compagnie de Maître Marc Bellemare. On va faire une courte pause pour rejoindre Maître Bellemare, que ce soit pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca. On vient tout de suite.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102.
Matin, Normand Brathwaite qui est là, Normand.
Bonjour tout le monde.
Je veux te parler de piment fort parce que je suis trop jeune pour avoir vécu la première mouture. Ben, parce que quand t'es revenu, tu voyais peut-être ça repartir pour plusieurs années.
Mais c'est pas ça, c'est qu'on avait 2 avocats au balcon.
Je suis obligé de regarder 2 avocats pour... Je peux-tu,
ben ouais,
je peux-tu
pas? La preuve, c'est que Manny a mis un numéro que j'ai fait avec François Pérusse. Puis François avait traduit Aigle Noir de Marie-Carmen en Aigle Noir. Puis moi, je faisais une chorégraphie, oh, oui, là. Et là, ils l'ont représenté à un anniversaire de la disque. Ouf. Et quand on l'a fait la première fois, t'as Richard Séguin qui est crampé. Tout le monde est crampé. Et là, quand il le représente, Claude Pelgag,
apeuré.
Apeuré, on l'a dit. Sortez-les de là. Fait que je trouve que le balancier est allé un peu trop l'autre bord.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le BLVD.fm et l'application mobile.
102.1.
Ça y est!
Le nouveau Nissan Kicks 2025 est enfin arrivé chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Avec le meilleur espace de chargement de sa catégorie, un look à tout casser et sa traction intégrale intelligente, le nouveau Kicks, c'est un wow assuré. Venez l'essayer et profitez aussi de nos rabais exceptionnels sur les modèles 2024 durant la liquidation totale de Nissan. On vous attend chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan.
Au Cochon d'Inde, les rabais appartiennent à ceux qui mangent tôt. Du lundi au vendredi, de l'ouverture jusqu'à 9h30, profite d'une sélection de délicieux déjeuners pour seulement 11,95 $. Café de spécialité ou café filtre, tous deux sont inclus pour bien débuter la journée. Fais du Cochon d'Inde ta nouvelle habitude matinale. Cochon d'Inde, le rendez-vous gourmand pour les lève-tôt. Tous les détails en succursale.
Mon père dit que les nouveaux rayés de Kaleido sont rendus full flexibles. Il adore économiser des sous pour mon avenir, comme il veut, quand il veut. Fait qu'il risque d'adorer mon idée de ranger ma chambre, quand je veux et comme je veux. Merci Kaleido, l'épargne étude qu'en fait plus.
OK Patricia, si je te parle de synergie, de professionnalisme, d'authenticité, de compétences en immobilier à Québec.
Ben c'est facile. Tu parles de mon équipe.
Chez Patricia et son équipe, on s'occupe de tout. On s'occupe de vous, de A
à vente.
PatriciaetSonÉquipe.com.
Célébrez les fêtes avec amour et tombez amoureux des offres exceptionnelles de Mercedes-Benz de Québec. Il vous reste que quelques semaines pour profiter de la pleine subvention allant jusqu'à 12 000 $ applicable sur le VUS EQB 100 % électrique. Mercedes-Benz de Québec vous offre aussi une liquidation de démonstrateurs comme le GLA, CLA et le GLC au prix de 824,99 $ plus taxes sur 48 mois, peu importe le modèle. L'offre prend fin le 30 novembre. Mercedes-Benz de Québec sur Bouvier, l'étoile de Québec.
L'automne est arrivé. Profitez des températures douces pour installer votre nouvelle thermopompe avec Enviro-Confort. Économie, moment cocooning et chaleur garantie. Visitez enviroconfort.com pour découvrir nos offres automnales.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par Mercado.fm.
Obtenez une entrée pour deux personnes d'une valeur de 70 $ à 35 $ chez Défi Évasion.
À juger. Prochaine offre.
Obtenez un forfait table d'hôte 4 services pour deux personnes d'une valeur de 140 $ à 80 $ chez Pizzédélic Quartier.
À juger, monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Cette année, les boutiques érotiques au 7e ciel célèbrent leur 15e anniversaire. En novembre, achetez un des 4 produits Womanizer et WeVibe sélectionnés et recevez 3 cadeaux totalisant 200 $. Au 7e ciel, 911 Charest-Ouest et Marché Jean Talon ou au7e-ciel.com.
Qu'est-ce qui est mieux qu'un Outlander PHEV pour passer à travers la neige, la glace et la gadoue? Un PHEV neuf de Paquette Mitsubishi avec 1000 $ en crédit pour vos pneus d'hiver ou une réduction de 1 % du taux d'intérêt. En plus, dernière chance d'ajouter la garantie prolongée sans frais sur le PHEV 2024, ça vaut jusqu'à 3 750 $ plus le rabais fidélité de 1 000 $ plus 10 000 $ en subvention. Mais dépêchez-vous, les subventions vont fondre comme neige au soleil. Détails chez Paquette Mitsubishi à Lévis.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, moi, je pensais que les avocats, vous étiez tout honnête, hein? Du début jusqu'à la fin, là, vous étiez honnête, du début de votre carrière jusqu'à la fin.
Pas de rumeurs, là, pas de rumeurs.
Il n'y en a pas de tout croche. Puis là, ben, sur un de mes sites préférés, c'est-à-dire Droit Inc., on parle d'un avocat qui est écopé d'une amende disciplinaire pour avoir détourné de l'électricité chez lui pendant 14 ans, Maître Bellemare. C'est pas rien, là.
Un avocat pris la main dans la prise, c'est ça, là. T'as-tu déjà mis une main dans la prise, toi, petit gars, là? T'es-tu allé gosser dans une prise de courant avec une broche, là?
Non, j'ai jamais fait ça, mais je me souviens que mon cousin, à l'époque, l'avait fait et ça avait comme fait un arc, l'éclair. Ça avait comme fait un éclair, là, dans la chambre. Il faisait extrêmement noir. Puis ça m'a convaincu de ne pas le refaire moi-même parce que lui avait subi un bon petit choc électrique.
Oui, c'est ça. Et puis, as-tu déjà mis la main sur une clôture électrique?
Une clôture à vache, oui. C'est pas un gros courant qui passe là, mais oui.
Non, mais ça surprend.
Une clôture à vache.
Ça m'est arrivé quand j'étais petit gars, moi, les deux. La broche dans la prise, puis la clôture électrique pour les vaches, mais à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'ils vont interdire ça pour éviter que les vaches se fassent picosser. Mais ça surprend, mais c'est vrai que ça fait moins mal parce que le courant n'est pas fort, mais c'est juste pour dire à la vache que faut pas que tu sautes la clôture, ma chère amie. Alors, cet avocat-là, effectivement, il s'appelle Antonio Martino, mais Martino avec un O. Martino. Il est avocat depuis 1985. Il a été reconnu coupable par le conseil de discipline du barreau pour avoir détourné l'électricité chez lui pendant 14 ans. Sais-tu que, c'est pas moi, pour moi, l'Hydro-Québec va venir cogner à la porte et vont dire « tu nous dois de l'argent ». Mais il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Parce que quand tu détournes l'électricité, tu consommes de l'électricité, mais c'est rattaché au compteur de quelqu'un. Ben donc, oui. Il y a quelqu'un qui je ne sais pas si c'est un voisin, à un moment donné, qui s'est fait bommer son fil ou son électricité, mais en quelque part, il y a quelqu'un qui a payé pour ça parce que c'est pas gratis, là. Penses-tu?
Il a remboursé, de ce que je comprends, c'est qu'il aurait remboursé Hydro-Québec là, 26 948,84 $ pour l'électricité non mesurée consommée entre 2007 et 2021. À savoir si c'était plus que ça ou moins que ça, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il aurait remboursé, Maître Bellemare.
Oui, c'est ça, mais il y a de la fraude là-dedans, là, je ne sais pas, mais il me semble que...
Ben oui, c'est de la fraude.
Électricité non mesurée en 2007 et 2021, mais il dit qu'il ne savait pas, lui. Il dit non, il dit il y a des travaux qui ont été faits chez nous à un moment donné, puis je ne sais pas trop c'est quoi, mais là, il a dû s'apercevoir que son compte d'électricité, d'abord, je ne sais pas s'il y en a eu pendant cette période-là, parce que probablement qu'il n'y a pas eu de compte, mais s'il y en a eu, probablement qu'il a trouvé que c'était pas cher l'électricité au Québec, hein, parce que tabarnouche, c'est notre énergie nationale au Québec, de produire de l'électricité, c'est notre fierté nationale. Alors, mais lui, il devait être pas mal fier pour trouver que finalement, ça n'écoutait pas une scène. Alors, c'est ça, un avocat qui a fait ça, mais on dit que ça y vaut une amende de 10 000 piastres qu'il va probablement payer au barreau. Et puis, manquer à son devoir, discipline, pendant une période de plus de 14 ans, que soit maintenue une dérivation du courant électrique. Mais je ne sais pas s'il y a eu une suspension. Parce qu'on parle de ça, là, on dit, je n'étais pas au courant, j'ai plaidé coupable pour éviter d'autres frais, d'autres ennuis. Lui, il a l'air à dire, je me sens pas coupable, mais j'ai plaidé coupable pareil pour éviter des problèmes. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une suspension ou s'il y a eu un... Parce qu'il me semble que si ça nuit à ce point à l'image de la profession d'avocat, il devrait y avoir un minimum de suspension.
Ben, surtout qu'il a fait de l'aveuglement volontaire, là, on va se le dire. Là. Quand tu ne payes pas d'électricité, quand tu n'as pas de bill d'électricité à la maison, nécessairement, c'est parce qu'il se passe quelque chose.
Malgré j'ai eu un gars, moi, qui est venu me consulter il y a quelques années pour un accident qui était survenu il y a une quarantaine d'années où il avait été électrocuté dans un camp de chasse. Un camp de chasse là, qui relevait d'une compagnie forestière au Québec.
Ouais.
Et puis, il disait que c'était un accident de travail, puis il avait été refusé à l'époque. Puis moi, j'ai commencé à fouiller dans son dossier, puis j'ai trouvé des documents d'enquête qui avaient été faits à l'époque, mais pas dans le dossier de CNSST, dans un autre dossier, parallèlement à ça. Et il avait essayé de transférer du courant. Là. Il avait essayé de jouer avec le courant. Puis c'est en essayant de voler du courant, puis de détourner les fils, qu'il s'est électrocuté, puis il a essayé de passer ça.
Ça n'avait pas passé.
Mais non, ça n'avait pas passé, effectivement. Mais il n'y a pas juste ça. Hein. Il y a aussi le câble pour la télé, puis l'Internet, puis il y a beaucoup de gens qui jouent avec ça, puis qui réussissent à couper leur facture ou à éliminer complètement la facture en essayant de passer ça chez le voisin. Puis des fois, c'est avec la complicité du voisin, puis on va partager les frais, puis il y a beaucoup de fling-flang. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut représenter comme économie ou comme perte de revenus pour les compagnies, mais c'est sûrement recensé.
Ouais.
C'est pas... en tout cas... Il ne faut pas faire ça.
Maître Bellemare, j'ai des questions à vous poser. Vous êtes en interrogatoire présentement. Chez Bellemare, oui. Avocat, là, Le degré de vos pièces est à combien? Est-ce que vous êtes à 20 degrés, 21 degrés, 22 degrés? C'est-tu confortable?
Ben moi je te dirais que c'est entre 20,5 puis 22.
OK. Est-ce que vous avez toutes des thermostats indépendants?
Oui.
OK. Est-ce que ça fonctionne bien ou des fois il fait trop froid ou des fois il fait trop chaud?
Ben des fois il fait trop froid, des fois il fait trop chaud, mais je te dirais que pour le dodo, je mets ça à 20,5.
20,5 à la maison, ouais.
Puis, mais quand je suis debout puis que je me promène en petite tenue, je mets ça plutôt à 22. À 22, c'est confortable.
À 22, bon, c'est parfait.
Mais pour le dodo, 22, c'est trop chaud.
Mais dans une entreprise, là, moi j'ai travaillé dans une entreprise, j'étais là longtemps, là. On était obligé de mettre des couverts sur le dessus des thermostats pour que les filles puis les gars arrêtent de changer la température constamment. Parce qu'il y a des filles qui avaient chaud, ils baissaient le chauffage. Il y a des gars qui avaient frette, ils montaient le chauffage. Puis là, ben, c'était tout indépendant. Puis là, ben, le gars de la climatisation chauffage arrivait parce qu'il recevait tout le temps des plaintes. Puis là, il disait, ben voyons, c'est parce que tout est tempéré, ça, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas vous amuser avec ça. Fait qu'on a mis des gros trucs de plastique pour empêcher toute la gang de changer la température dans le business. Bon, on s'est tout entendu pour mettre ça à 21 degrés.
Ben oui. Tu peux peut-être une petite laine si tu trouves ça trop froid aussi. Ben, on peut trouver des moyens pour faire notre petit effort individuel pour que ce soit confortable sans nécessairement taponner la...
Je t'avais de faire ça chez nous. La petite mère qui est chez nous, elle met ça à 20. Puis ses filles, quand ils arrivent à la maison, mettent ça à 27 dans leur chambre. Fait que vous comprendrez que chez nous, c'est un peu l'asile au niveau du chauffage, là. Mais si j'étais pas propriétaire, Maître Bellemare, de ma maison, mettons que je suis en logement, puis que l'électricité est fournie par mon propriétaire, puis lui, il juge que 18 degrés chez nous, c'est bien correct, puis j'ai les plus vieilles à la maison qui veulent mettre ça à 27. Ça fonctionne comment? Qui gère le chauffage quand c'est le propriétaire qui gère le chauffage chez vous? Mettons un chauffage à l'eau, là.
Bien, il y a deux situations possibles. Il y a bien sûr le propriétaire qui paye le chauffage ou il y a le locataire qui paye le chauffage. Si c'est le locataire, mais c'est toi qui décides, c'est bien évident. Mais si c'est le propriétaire, normalement, si on se fie aux normes qui sont appliquées pas mal par le tribunal administratif du logement, qui était autrefois la régie des loyers ou la régie du logement, c'est à peu près 21 degrés. Et puis j'ai vérifié ça sur le site d'Éducaloi et on dit le tribunal administratif du logement reconnaît que la température doit rester en haut d'un certain seuil, environ 21 degrés Celsius dans des conditions climatiques normales. Je trouve que c'est correct. C'est sûr que si le propriétaire met ça à 19, puis toi, t'es un thermomètre, puis t'es capable de prouver que c'est 19 degrés, tu fais une plainte au tribunal administratif du logement, tu vas avoir une réduction de loyer. Sûr. Parce que à 18, 19 degrés, c'est vraiment trop froid. C'est pas confortable. Il faut que tu sois bien dans ton logement. Il faut que tu sois confortable. Il faut que ça soit agréable. T'sais, si tu es tout le temps obligé de mettre ton coat pendant que tu écoutes un film, là, il y a un problème.
Mais d'un autre côté, je comprends les propriétaires d'immeubles à logement. Il y a des locataires qui sont responsables. Puis moi, ayant vécu au centre-ville de Québec, là, j'en ai vu des vertes puis des pommures, c'est-à-dire que l'électricité et le chauffage étaient fournis par le propriétaire. Puis là, les gens avaient de l'air climatisé. Puis en plus de ça, il ouvrait la fenêtre l'été pour aérer. Fait que là, il y avait de l'air climatisé, puis il ouvre la fenêtre pour aérer, mais ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comprenez que le propriétaire se fait manger son profit aussi. Fait que je comprends certains propriétaires de dire « Hey, on va mettre ça à tel degré. » Fait que comme ça, personne va chialer. Mais c'est vrai que 18, pour certains, c'est extrêmement froid. Puis pour d'autres, ben, c'est un mode de vie, 18 dans la maison, là.
Oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi de. Tu vois, comme es-tu obligé, comme locataire, de chauffer ton logement si tu es absent? Tu t'en vas deux semaines en Floride ou au Mexique, puis tu mets ton chauffage à 16 degrés. Ça dépend de la bâtisse dans laquelle tu vis. Si tu vis dans un appartement qui te coûte 2 500 $ par mois, qui est bien construit, de construction récente, béton, très bien isolé, mais ça se peut que tu sois capable de couper ton chauffage de façon drastique sans que ça nuise aux voisins. Mais si tu vis dans un immeuble qui a été construit dans les années 50, en bois, puis en venir, puis en 2x4, mais peut-être que si tu pars pendant deux semaines, tu mets ça à 16 degrés, que les voisins vont s'en ressentir, parce que le voisin d'en haut, lui, peut-être qu'il va trouver que le plancher est frit. Alors, ça dépend de bien des choses, mais je pense que le locataire qui, lui, Le tribunal administratif du logement, de son côté, s'il y a des plaintes à formuler, puis s'il n'y a pas un service adéquat dans son logement, il va pouvoir demander au propriétaire de régler cette situation-là. Puis ce sera au propriétaire à parler au locataire qui est absent, puis qui a mis ça à 15-16 degrés pendant son absence pour s'assurer que ça ne nuit pas aux voisins. Parce que là, comme ailleurs, que ce soit le chauffage ou le chien qui crie ou la senteur ou quoi que ce soit, tu es responsable aussi des dommages que tu causes à tes voisins quand tu es en logement, hein?
Oui, exact, exact. Mais c'est ça, un bon 15-20 degrés, parce que là, on arrive dans les vacances, il y en a qui vont décider de partir dans le sud. Moi, à la grandeur de la maison, je mets ça à 15-16 degrés, Maître Bellemare, pendant le temps que je suis parti, puis c'est parfait. La nuit chez nous, je descends ça à des fois, je pense que hier, je me suis rendu compte, je me suis levé, je m'en viens vieux, fait que la nuit, je me lève vers 3-4 heures du matin pour aller faire mon petit pipi, puis il faisait 18 dans la maison. C'était assez frisquette, mais quand je me suis levé, le chauffage avait déjà commencé à remonter, fait qu'on était autour de 21-22, là, vers l'entour de 6 heures ce matin.
OK, ben coudonc, c'était pas pire. Mais si toi, tu es dans une maison, tu n'es pas dans un logement.
Non, c'est ça. Mais quand même, c'est moi qui paye. Fait que vous comprenez que j'essaie
oui,
le
sûr.
Plus possible de rendre ça efficace chez nous, là.
Mais le logement, il ne faut pas tolérer. Là. On est rendu au mois de novembre. Là. S'il y a des problèmes de chauffage dans votre logement, bougez. Vous faites part de votre mécontentement. Écrivez, vous envoyez une lettre au propriétaire. Vous lui dites, écoutez, j'ai mesuré avec le thermomètre. On est à 17, 19, c'est pas assez. Moi, j'ai un bébé dans la maison, je vais être confortable, je vais avoir ça à 21, 20, 21,5, 22. Vous lui donnez 2 jours pour corriger la situation. Puis si ce n'est pas corrigé, bien là, vous vous adressez au tribunal administratif du logement puis vous demandez une réduction de loyer de 50$ par mois ou de 100$ par mois. Puis je peux vous dire qu'à ce moment-là, il va s'en occuper parce que, comme tu disais tantôt, c'est son profit qui y passe. Là. Lui, il fait plus de profit, mais vous, comme locataire, vous n'avez pas de qualité. Puis à Québec, mais bon sang, il fait frais de 6 mois par année, tu sais, si ce n'est pas 7. Alors, c'est le temps maintenant de mettre le pied à terre si jamais vous n'êtes pas satisfait des conditions de chauffage dans votre logement.
Bellemareavocat.ca pour vous rejoindre si on a des dossiers concernant la SAAC, l'IVAC, la CNSST. Je vous souhaite de passer une belle soirée, Maître Bellemare, de même qu'aux auditeurs. Puis on se reparle, nous autres, demain 10h avec Audrey Pinchot. Sinon, avec Maître Bellemare, ben, c'est comme à chaque lundi à 18h la semaine prochaine. Merci, Maître Bellemare.
Parfait. Bonne semaine à tout le monde. Merci. Bye-bye.
Marceau, le soir.
L'équipe Polestar Ville de Québec vous attend dans son nouvel espace fraîchement aménagé, franchement accueillant. Rue Cyril-Duquette, voisin de Volvo Ville de Québec.
L'entreprise que vous avez bâtie, beau temps, mauvais temps, et même quand vous manquez de temps, mérite d'être bien protégée. Optez pour la couverture la mieux adaptée à votre entreprise avec Desjardins Assurances.
L'automne est arrivé. Profitez des températures douces pour installer votre nouvelle thermopompe avec EnviroConfort. Économie, moment cocooning et chaleur garantie. Visitez EnviroConfort.com pour découvrir nos offres automnales.
On revient du boulot. On monte le chauffage parce que c'est l'hiver. On met le four en marche. On allume la télé. On fait une brassée de lavage. On soupe. On démarre le lave-vaisselle. On prend une longue douche chaude. On regarde un peu la télé. Ça tombe bien. Elle est déjà allumée. Quand on fait ça tout le monde en même temps... Ça crée des pointes et ça surcharge le réseau électrique. Mais en modifiant ses habitudes, tout le monde en même temps, on peut changer les choses. En plus, Hydro-Québec propose des offres pour vous faire économiser cet hiver. Pour en savoir plus, visitez hydroquebec.com/économiser cet hiver.
Ça y est, le nouveau Nissan Kicks 2025 est enfin arrivé chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Avec le meilleur espace de chargement de sa catégorie, un look à tout casser et sa traction intégrale intelligente, le nouveau Kicks, c'est un wow assuré. Venez l'essayer et profitez aussi de nos rabais exceptionnels sur les modèles 2024 durant la liquidation totale de Nissan. On vous attend chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan.
T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le blvd.fm.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres. autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs. 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Cette année, Noël, c'est à la Cité Agricole. La Cité Agricole vous propose une multitude de paniers cadeaux originaux de leur terroir pour gâter vos employés et vos proches. Des produits raffinés et authentiques provenant de nos récoltes se déclinant en trois thématiques. Boréal, fermier ou érablière. Il reste encore quelques dates disponibles pour nos salles de réception pour un party de Noël inoubliable. Notre menu 4 services des fêtes est disponible en boîte festive, prête à être partagée et dégustée. Détails sur citéagricole.com.
Tu veux un bateau pour ton auto? Viens chez Paquette Mitsubishi profiter d'un taux de financement ou de location.